suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Entre autres choses, la pandémie de Covid-19 aura peut-être été l'occasion pour nombre d'entre nous de réfléchir de manière plus approfondie à la question des représentations graphiques et plus généralement à celle de la visualisation des phénomènes. Car si cette épidémie s'est traduite par l'irruption soudaine d'un ensemble de mots nouveaux dans notre lexique quotidien, elle a également vu surgir des courbes et des cartes, des tableaux et des pourcentages, des taux et autres R0. Des questions que se posent depuis longtemps scientifiques et artistes et qu'on trouve en particulier au cœur d'une discipline comme le design. Et c'est précisément ce sur quoi travaille Annelise Renon, qui est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. En seconde partie d'émission, c'est Marie-Sarah Adenis qui nous rejoindra. Elle a un parcours atypique. Elle est d'abord biologiste. Elle est aujourd'hui designer. Elle travaille au croisement précisément de la science et du design. Et puis Annelise Renon, avec qui on va commencer cette émission, a également un parcours atypique puisqu'elle vient du graphisme. Et puis elle a bifurqué vers l'anthropologie tout en travaillant, en continuant de travailler sur les images, les représentations, les visualisations. Elle est aujourd'hui maître de conférence au laboratoire pratique et théorie de l'art contemporain à l'université de Rennes 2. Donc dans une spécialité d'esthétique, mais au croisement de tellement de choses entre la science, le design, les sciences sociales en particulier. Elle est l'invitée de la suite dans les idées cette semaine parce qu'elle publie « Design et sciences » aux presses universitaires de Vincennes, un petit ouvrage précieux, extraordinairement dense, qui invite à lire énormément de choses qui sont au croisement de toutes ces disciplines. Alors Annelise Renon, je voudrais qu'on commence peut-être par ce parcours que j'évoquais. Vous avez d'abord commencé par dessiner, on peut dire ça comme ça, et le dessin, vous y réfléchissez beaucoup dans ce livre.
Oui, en effet. J'ai commencé à dessiner. Je voulais faire de la restauration d'œuvres d'art au tout départ, il y a très longtemps. et donc j'ai fait des études scientifiques et beaucoup de dessins pendant très longtemps. J'ai fait de l'histoire de l'art pour me lancer dans ces études-là. Et en fait, j'avais un petit peu l'intuition. Enfin, j'avais intuitivement envie de faire de l'anthropologie visuelle, mais je trouvais pas la formation qui convenait. Donc je suis passée par plusieurs formations consécutives en anthropologie, aux beaux-arts, en graphisme, en sciences du langage aussi par la suite, pour essayer d'arriver à me faire des boîtes à outils, aussi bien dans des écoles du ministère de la Culture qu'à l'université ou dans des écoles d'art appliqué. Et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer par l'intermédiaire d'une invitation à une conférence aux Beaux-Arts de Valence à l'époque quand je faisais du design graphique là-bas, Sabine Plou qui est toujours d'ailleurs chercheuse mathématicienne qui travaille beaucoup avec les sciences cognitives et qui a mis au point un modèle qui s'appelle les atlas sémantiques avec une équipe, avec la caractéristique que ce modèle fonctionne en générant des cartes à partir de corpus de synonymes du lexique français présent en ligne, mais que ces cartes, bien qu'ayant une place graphique extrêmement forte, ne sont pas interrogées pour leur présence graphique, mais simplement comme des outils ou des rendus. Et lorsque j'ai rencontré cette chercheuse, venant du graphisme, je me disais pourquoi en fait on n'interrogerait pas les caractéristiques graphiques de ces cartes éventuellement comme boîte à outils également dans la représentation du sens. Et de là est venu mon projet de diplôme de Beaux-Arts à l'époque et aussi l'impulsion qui a fait mon projet de thèse et mes thèmes de recherche actuels, c'est-à-dire de voir comment l'inscription graphique et la production graphique peut être moteur ou en tout cas poser sur d'autres angles de vue des problématiques de recherche en contexte scientifique, là où a priori la place dévolue aux images ne serait que aspérité sensible dont on essaierait non pas de se débarrasser mais en tout cas de tenir à l'écart ou de distinguer des problèmes de recherche fondamentaux.
Voilà. Ce qui vous intéresse au fond, c'est la dimension proprement heuristique de ces images ou de ces moyens de représentation pour faire en sorte que quand on fait de la recherche, que ce soit en sciences sociales ou en sciences dures, on puisse travailler avec d'autres outils que simplement les mots, les phrases,
oui,
la syntaxe.
Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qui m'a intéressé très tôt, c'était que dans la visualisation des sciences, la plupart du temps, le rôle dévolu aux images est lié à la vulgarisation ou à la diffusion des recherches. Or, on se rend compte que dans l'histoire des sciences, la plupart des révolutions scientifiques étaient des révolutions également visuelles et instrumentales. Et visuelles parce que souvent engendrées par des modalités de recherche, de nouveaux modes de représentation de la science et du monde qui passaient également par sa perception.
On va prendre deux exemples.
Oui.
Non,
oui, oui,
Galilée, Darwin.
Oui. Bon. Ben voilà, par exemple. Oui, voilà.
Pas des moindres.
Non, non, mais c'est vrai que ce sont des exemples emblématiques. Galilée, dans son fameux livre.
On a oublié le titre.
On a oublié le titre.
Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave,
ouais,
on retrouvera.
Retrouvera.
Tout le monde peut retrouver avec Internet aujourd'hui.
Ouais, d'accord.
Donc, dans le grand livre de Galilée.
Le Sidereus Nuncius, voilà. Dans le livre de Galilée, la particularité, c'est que il décrit sous un. En fait, c'est une sorte de fable, quelque part, qui décrit la surface lunaire, agrémentée de tout un tas d'illustrations. Et ces illustrations avaient été commandées à son graveur pour appuyer l'argumentation sur le caractère circulaire de la Lune, on va dire. Et particulièrement la visualisation de cratères, des illustrations de cratères qui ont été, on va dire, chargées de la propre observation du monde terrestre par Galilée. Voilà. Rien que le fait d'avoir dénommé certaines observations que Galilée a pu faire en détournant sa lunette marine vers le ciel et tout d'un coup ce déplacement d'usage lui faisait voir aussi des particularités graphiques à la surface. Il fallait les nommer et en les nommant il y avait déjà une part de culture visuelle quelque part, même si c'est un petit peu anachronique d'en parler tel quel.
Cratère.
Mais voilà, cratère, exactement. Ce mot qui a été qualifié de modèle chargé déjà de théories culturelles par quelqu'un qui s'appelle Norwood Hanson. Mais bon, voilà. Et Darwin, alors Darwin, c'est un exemple dont on reviendra certainement plus tard avec Marie-Sara. Darwin, ce qui est incroyable et extrêmement connu, qui a été beaucoup étudié par un historien de l'art qui s'appelle Horst Bredekamp, c'est la manière dont, à l'intérieur de cette histoire de la représentation de l'évolutionnisme au XIXe siècle, tout d'un coup, là où on utilisait la métaphore de la racine, de l'arbre, etc., lui, il s'est intéressé à la manière dont les coraux se développaient. Et donc, en observant la manière dont les coraux se développaient, il s'est dit qu'il y avait peut-être là un modèle qu'on pouvait, par analogie, transposer sur l'évolution des espèces humaines. Et il a dessiné ces coraux, ce qu'on a pu qualifier de l'acte d'image, c'est-à-dire la manière dont il a essayé de transformer sa pensée, ou en tout cas de se la représenter à lui-même en passant par le dessin.
Dans cet acte d'image, il y a une dimension performative importante. C'est un peu
tout
l'équivalent des fameux actes de langage du philosophe Austin.
Mmh.
C'est-à-dire qu'en produisant cette image, on la performe littéralement. Et du coup, ces représentations vont être extraordinairement prégnantes. C'est là qu'on voit cette dimension de connaissance que peut apporter la représentation.
Oui, parce que du coup, c'est vrai que dans l'acte graphique, particulièrement dans l'acte de dessin, il y a une projection de l'observation et une manière de construire un monde au fur et à mesure que l'on construit cette image. C'est-à-dire qu'à travers de la gestualité et au travers des différentes strates d'actes qui passent par, alors pour les personnes qui pratiquent le dessin, on connaissent bien ça, c'est-à-dire, ou même toutes les personnes quand on produit des schémas, un trait en entraînant un autre, les découpages qui se font sur la feuille sont autant de découpages du monde et des idées que l'on souhaite transmettre. Et c'est une forme d'indexation aussi graphique des idées et en même temps une manière de se rendre compte de la résistance aussi de la matière et de la résistance du trait et du dessin dans cette transmission. Enfin, je ne sais pas si c'est...
Si, si, c'est très clair, mais ça nous ramène justement à d'une certaine façon, à ce qu'on pourrait appeler l'invention du design, même si vous citez cette phrase, je ne sais plus qui la prononce, mais assez extraordinaire, qui consiste à dire, peut-être Sotsas, si le design n'existe pas, ou alors il a toujours existé.
Oui, tout à fait.
Bon, on voit bien ce que ça veut dire, mais d'une certaine façon, il y a quand même une historicité du design, et c'est dans la Renaissance italienne que ce mot « disegno » apparaît, qui veut dire précisément ce que vous venez de décrire, Annelise Renon.
Oui, alors en fait, il y a différentes manières d'aborder l'histoire du design. La discipline du design, on va dire qu'elle est actée comme naissant à la suite des arts and crafts anglo-saxons et dans la lignée des arts décoratifs.
On est plutôt au 19e siècle.
Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est ce qui est acté dans la plupart des livres d'histoire du design. Or, si l'on se penche sur la représentation graphique, si on considère aussi que le design n'est pas fabrication, mais également projection et inscription, on peut remonter bien plus loin, évidemment. Mais disons que étymologiquement, c'est vrai qu'il y a cette notion qui est pratiquement un concept humaniste, voire même métaphysique, dont la date a été estimée à 1444 par Jacqueline Lichtenstein, et qui a été extrêmement bien documentée.
C'est quelques années après le livre d'Alberti, en fait.
Oui, ouais, ça participe de la même impulsion, en fait. Disons qu'un certain nombre de penseurs de cette époque-là font émerger cette idée qui venait du latin, en fait, designare, qui signifie à la fois on va dire projeter, documenter, qui signifie aussi inscrire. Il y a énormément de significations qui sont encapsulées à l'intérieur de ce concept, qui va avoir une histoire très longue et également une réception contemporaine. C'est-à-dire que dans le disegno, il y a à la fois l'inscription en elle-même, l'acte du dessin, l'acte du plan, puisque ça s'appliquait beaucoup à l'architecture, et en même temps l'idée qui se forge à l'intérieur de l'esprit. C'est-à-dire qu'on a d'une part l'activité de conception et l'activité de projection et l'activité de réalisation. On a un petit peu ces trois choses qui sont à l'intérieur du terme, qui ensuite ont eu des découpages. Alors c'est très très documenté dans le dictionnaire philosophique européen de Barbara Cassin, par Jacqueline Lichtenstein d'ailleurs. J'en ai fait un court résumé dans le livre, mais tout est en ligne, extrêmement documenté, notamment dans les filiations vers le français, vers l'anglais, vers l'allemand, et ensuite la manière dont ça a été réinjecté dans le lexique français, par exemple.
Alors, en français, ouais. ça correspond aussi au mot, en tous les cas à son usage à l'époque, dessin, D-E-2-S.
E-I-N. Oui, tout à fait. Dans l'encyclopédie, il y avait la distinction entre les deux. Le dessin alors en fait, bon, c'est une histoire un petit peu longue, mais disons que avec la distinction entre les corps de métier notamment et l'attachement qui était dévolu à la hiérarchisation et au découpage notamment des qualifications artisanales, les modalités de réalisation notamment mécaniques et les modalités de projection, ce qu'on pourrait appeler maintenant ingénierique, mais c'est pas vraiment ça, et aussi les modalités de réalisation artistique étaient quand même très hiérarchisées et très découpées. Donc le dessin et le dessin EIN étaient des choses qui étaient nécessaires à distinguer, puisqu'il y avait une finalité, une forme de solution à une vue de l'esprit ou à un but qui avait été imaginé, avec énormément d'ambiguïté linguistique de toute façon à l'intérieur et des ambiguïtés de définition qui ont perduré, mais qui perdurent même jusqu'à maintenant, hein, de toute façon.
Alors vous vous intéressez au lien entre ce design avec toute cette tradition et cette richesse et cette complexité derrière ce concept, et qui en plus prend des dimensions différentes selon les moments et selon les pays et les traditions, parce que le mot renvoie pas à la même chose en France et aux États-Unis par exemple, où le design industriel va tenir un rôle important. On aura l'occasion dans la deuxième partie de l'émission de parler peut-être des liens entre sciences dites dures et design, biologie et design, mais vous êtes particulièrement intéressé aussi dans un premier temps de votre recherche au lien entre les sciences sociales et le design. On sait que des ethnologues, des anthropologues ont eu recours à des schémas pour représenter la parenté, par exemple. On sait aussi, on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans cette émission, il y a d'ailleurs un très bel article dans la revue papier de France Culture de cette émission avec Nicolas Martin-Breton, on a parlé du travail de W.E.B. Du Boyce, donc ce sociologue américain qui a inventé des représentations graphiques pour dire les inégalités entre les blancs et les noirs aux États-Unis au début du XXe siècle. On pourrait multiplier les exemples et citer en particulier le nom de Jacques Bertin, sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Anne-Lise Renon.
Oui, bah oui, effectivement. Alors Jacques Bertin, c'est un exemple vraiment emblématique et à la fois aussi autant mobilisé que oublié. C'est ça qui est un petit peu la particularité de son travail. En fait, Jacques Bertin, qui était cartographe de formation, cartographe géographe, plutôt cartographe, a monté un laboratoire à l'école des hautes études en sciences sociales en 1954, qui était à l'époque l'école pratique des hautes études.
La sixième section.
Ouais, voilà, c'est ça qui est. Et en 74, le laboratoire de cartographie est devenu, en même temps que l'école pratique des hautes études, l'école des hautes études en sciences sociales, le laboratoire de graphique. Et donc, la particularité de ce qui était développé dans son laboratoire, qui est donc vraiment à l'articulation des grands moments des sciences sociales du XXe siècle à l'école des hautes études, c'était d'être un laboratoire support au départ, support à la recherche, c'est-à-dire que les chercheurs en sciences humaines, en sciences sociales, mais on a découvert récemment dans les archives certains mathématiciens aussi, physiciens, venaient à la rencontre de Bertin et de son équipe et lui demandaient des illustrations au départ pour leurs articles. Au fur et à mesure de ces requêtes, il y a eu la nécessité d'avoir des innovations graphiques pour mettre en forme les données, c'est-à-dire de ne pas passer simplement par un tableau, bête et méchant, à plusieurs entrées, mais de trouver par des truchements visuels, des modalités pour rendre compréhensible un certain nombre de faits et de données par le visuel, en essayant d'alléger en tout cas la lecture de certaines données qui seraient chiffrées.
Alors on pense particulièrement aux graphiques qui accompagnent, enfin qui font partie intégrante du livre de Pierre Bourdieu, La Distinction.
Ouais, tout
ces
à
analyses
fait.
Multivariées qui apparaissent selon deux axes. Enfin, on a tous été face à ces représentations graphiques et on sait comment elles fonctionnent. Elles ont connu un assez grand succès par la suite.
Oui. Bertin a travaillé avec beaucoup d'éminents chercheurs de l'école à cette période-là. Bourdieu a envoyé un certain nombre de ses étudiants à Bertin en stage. Lévi-Strauss a eu des correspondances avec Bertin. Barthes a eu énormément de correspondances avec Bertin. Grémas aussi. Et Brodel, évidemment, a eu un énorme travail avec Bertin. Ils étaient assez proches sur son ouvrage La Méditerranée. On a trouvé beaucoup de choses. Mais en fait, au-delà même de ces collaborations, Bertin est surtout très connu pour un ouvrage fondateur qui est vraiment une sorte de bible, qui est un peu la chose à apprendre en première année d'études de cartographie, qui s'appelle la sémiologie graphique, dont les 50 ans de parution étaient en 2017 et ont été l'occasion d'une exposition et puis d'une journée d'études et d'ateliers. Et là, en fait, on est en train de travailler à tout l'héritage de Bertin, notamment en informatique et en représentation dynamique, statistique notamment, mais pas que, puisqu'on se rend compte que tout un tas d'atlas contemporains en visualisation de données héritent de codes graphiques qui ont été initiés par certaines formes de variables visuelles qui ont été mises en place par Bertin à l'époque du traité.
Alors aujourd'hui, les données occupent la place qu'on sait. La mutation numérique produit des effets sur notre manière d'appréhender un certain nombre de connaissances. Mais pourtant, et alors même que la dimension, vous le rappeliez tout à l'heure, de l'apprentissage est au cœur du design, on ne peut que déplorer, au fond, que ce travail sur le graphisme comme mode de connaissance soit encore cantonné à des écoles d'art plutôt, qu'il y ait encore cette frontière qu'on a du mal. Alors je sais que vous êtes à cheval et que vous essayez de réunir, mais on peut pas dire que on est véritablement dans la formation universitaire française des apprentissages très poussés. On n'encourage pas véritablement les étudiants de la même façon qu'on les encourage à écrire, à dessiner, à produire des schémas, à penser avec des images.
Non, c'est vrai que ça tombe sous le sens de manipuler des images, mais ça ne tombe pas sous le sens d'apprendre à les faire. En anthropologie, par exemple, en ethnographie, le carnet de terrain est un standard. Le dessin d'observation est un standard. On sait que dans la description ethnographique, d'un point de vue textuel, il y a un certain nombre de choses qui... Il y a eu énormément de débats là-dessus. Jean-François Laplantine qui a écrit beaucoup, Michael Tosic qui a beaucoup écrit dessus, Alfred Gell, bien sûr, enfin beaucoup, beaucoup de personnes. La place du terrain est extrêmement importante et la place du carnet de terrain, du coup, y prend une place. Les carnets de terrain de Claude Lévi-Strauss en sont un merveilleux exemple. En carnet de laboratoire, plutôt physique ou chimie, effectivement, il y a des carnets de laboratoire qui ont également une importance, avec la force de l'inscription, de sorte à ce que les expériences soient reproductibles également. On prend des notes, on peut réaliser aussi certains schémas de dispositifs. En biologie, mais très tôt dans les formations en biologie, on apprend le dessin d'observation à partir de l'observation microscopique. Mais au fur et à mesure que les recherches et que les formations, enfin Marie-Sara en parlera mieux que moi, évoluent, avancent, les contingences technologiques et instrumentales des recherches évacuent peu ou prou la question de la manufacture de l'image. En physique astronomique, par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre de traitements successifs de l'image qui ont une grande importance dans la qualité des rendus. Observer, démontrer, représenter, tous ces termes-là qui sont au cœur des activités scientifiques passent par des productions et des styles qui vont avec les instruments qui produisent les images qu'on leur prête et qu'on leur demande, en fait. Sauf que la place du technicien ou la place du chercheur manipulant ces données et manipulant par les instruments la qualité ou la forme de ces images est assez peu reconnue en termes d'octorialité de création, on va dire, visuelle, alors même qu'elle est fondamentale.
Qu'on est encore dans des logiques de l'illustration et que la vulgarisation qui s'est beaucoup développée et qui s'est développée en particulier sur des médiums, je pense notamment à la vidéo ou aux livres de plus en plus illustrés, etc., donne le sentiment que l'image est là pour faire joli, quoi.
Et en même temps, il y a un petit peu cette ligne de crête où de plus en plus, la science étant extrêmement visuelle à l'heure actuelle, et sa place dans les médias et dans la société étant omniprésente, les disciplines scientifiques et les problématiques de recherche se repenchent de plus en plus sur la manière dont effectivement cette présence visuelle existe et se produit, en fait. Et de plus en plus de chercheurs sont vigilants à la manière dont eux-mêmes produisent les images qu'ils convoquent et quel type d'image ils convoquent. Parce qu'effectivement, on ne mobilise pas une gravure de la même manière qu'on mobilise un schéma ou un diagramme ou même une photographie. Et il y a de plus en plus de vigilance là-dessus, en tout cas, et de problématisation de ça.
Il y a un autre nom que je voulais qu'on prononce aujourd'hui, parce qu'on sent qu'il est important pour vous, pour penser ces questions de design et de science, c'est celui de Pierre-Damien Huyghe, et qui est l'un des théoriciens du design en France, philosophe des appareils, en particulier Annelise Renon.
Oui, Pierre-Damien Huyghe est quelqu'un de très important dans la pensée française du design de ces 30 dernières années et quelqu'un qui est à la fois très important dans la pensée du design et dans la pédagogie du design à l'université, puisque c'est lui quand même qui a insufflé les premiers départements et les premières recherches à ce propos. Et c'est vrai que la manière dont il a développé une pensée du travail et une pensée de la technicité à l'intérieur des appareils et aussi dans la reproductibilité de ces conceptions, moi, m'a particulièrement intéressée, puisque la question de la reproductibilité, pour moi, c'est vraiment un articulateur important dans ces relations entre design et science. Là où, et c'est particulièrement important dans des nuances, je pense, à faire entre recherche et science, particulièrement lorsque l'on parle, alors, la recherche, création en art, etc., je ne me lancerai pas là-dessus, parce que j'en ai pas la prétention, et puis en plus, il y a d'autres gens qui en parleraient beaucoup mieux que moi. Mais par contre, c'est vrai qu'en design, il y a cette tension entre la recherche et la science, qui, je pense, oui, est à nuancer, puisque ne serait-ce que par les questions de méthode, les questions de protocole et ces questions de reproductibilité. On va dire, le fait qu'une expérience, je vulgarise à gros traits, mais le fait qu'une expérience soit avérée en science, c'est un protocole expérimental, c'est le caractère reproductible de ce protocole. Et la manière dont d'autres laboratoires vont pouvoir s'en saisir pour apporter des différenciations.
On est dans une logique popperienne classique.
Ouais, voilà, exactement. Or, en design, ce serait plutôt le caractère irreproductible, paradoxalement, alors que le design est connu et fondamentalement émerge du caractère reproductible en série de ces objets. Mais par contre, la reproductibilité de ces méthodes, c'est un petit peu différent en termes de recherche. Et donc, du coup, il y a cette tension-là, je pense, qui est importante, que Pierre-Damien Huyg, lui, a beaucoup étudié sur la notion de travail, justement. Le travail de la science, le travail de l'art, le travail de l'image et le travail en design, c'est des choses qui sont vraiment en tension, en fait.
Et vous diriez qu'aujourd'hui, ces univers qui sont quand même historiquement séparés, dans votre livre, vous consacrez des pages aussi à ce que C.P. Snow a pu apporter à toutes ces questions de une, deux, trois cultures qui sont bien distinctes. Et en France, on est quand même dans un pays où les choses sont en silo plutôt. Vous diriez que ça s'arrange, qu'il y a des envies réciproques de croiser les perspectives, d'hybrider au fond les méthodes, y compris pour reconnaître les tensions comme celles que vous venez de pointer.
Je pense qu'il y a des impulsions, oui. Je pense qu'il y a des impulsions qui viennent du design et des impulsions aussi qui viennent de certains programmes de recherche scientifique et des impulsions qui viennent aussi de différents... Je saurais pas en fait comment le qualifier. Il y a des choses qui émergent à partir de projets qui nécessitent des collaborations interdisciplinaires et des dialogues méthodologiques, puisque l'une ou l'autre des disciplines engagées... Marie-Sara a des exemples très concrets dont elle
pourra vous parler. On va lui donner la parole bientôt.
Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a des impulsions comme ça de croisement qui nécessitent de trouver de nouvelles méthodes et de trouver de nouveaux objets de travail. Et il y a aussi des impulsions institutionnelles qui font un peu l'injonction aussi de ces collaborations.
On retrouve Marie-Sara Adenis pour dialoguer avec vous, Elise Renon. C'est tout de suite après un extrait du nouvel album, le quatrième, des Fleet Foxes. For Richard Swift, for John and Bill, for every gift lifted far before its will, Judy and Smith. I've met the mist hanging heavy over you. I loved you long, you rose to go. Beneath your songs, perfect angels in the snow. So time to stage, forget reserve, the type of great coronation you deserve.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
Design et science, c'est le titre du livre d'Anne-Lise Renon dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. On en parle également avec vous, Marie-Sara Adenis. Vous êtes designer et vous êtes biologiste. En fait, vous êtes d'abord biologiste. Vous avez fait de la biologie à l'école normale supérieure. Et puis, vous avez ensuite fait des études dans la grande école de design en France qui est l'ENSI. Et aujourd'hui, vous travaillez comme designer avec des matériaux biologiques. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça ou vous vous pensez encore comme biologiste, j'imagine, à certains égards.
Pas vraiment, mais en tout cas, je travaille avec des êtres vivants ou alors sur le vivant. Et vraiment dans deux approches qui sont très très différentes. J'ai pas une approche monolithique. Parfois, en fait, j'essaye de résoudre un problème. par rapport à la crise écologique, typiquement, parfois c'est techniquement que avec Pili, qui est une entreprise que j'ai cofondée, en fait, on invente une nouvelle manière de produire de la couleur. Et là, au lieu de le faire à partir du pétrole, parce que c'est de là que viennent toutes les couleurs, nous on le fait avec de la fermentation, en cultivant des bactéries qui vont transformer la nourriture qu'on leur donne pour produire des couleurs. Et ça, ça se fait de manière beaucoup plus écologique. Et en plus, on peut le faire à l'échelle industrielle pour tout un tas d'applications. Mais comme tout peut pas être résolu quand même techniquement, et que cette crise du vivant, c'est aussi une crise des imaginaires et de plein d'autres choses, et notamment des représentations, j'ai une autre grosse partie de mon travail où je m'intéresse à comment rendre sensibles ces choses-là, comment les incarner et comment les sortir un peu des chiffres ou de choses qui sont très abstraites et essayer de faire redescendre un petit peu ces concepts-là dans le monde, en fait, de les habiter, de les sentir.
Alors comment vous, biologiste, vous êtes dirigé vers le design? Tout à l'heure, Annelise Renon parlait de l'importance du design dans l'histoire de la biologie, en citant en particulier Darwin, et ce moment, cette analogie avec le corail pour penser, pour représenter sa théorie de l'évolution. Est-ce que c'est à travers cette histoire de la biologie, à travers la pratique de la biologie, que vous avez eu envie de vous orienter vers ces questions et cette pratique?
Je pense juste que j'avais pas forcément le bon prisme, c'est-à-dire que moi je veux pas forcément résoudre des énigmes, mais je veux plutôt justement mettre en énigme certaines choses et puis par là même de temps en temps arriver à découvrir des choses. Par rapport à la question de la représentation et de ce dont vous parliez tout à l'heure sur l'acte d'image et la dimension performative et comment en fait on peut construire un monde au fur et à mesure par le dessin, moi j'ai l'impression de trouver des choses et de faire de la recherche parfois par cette pratique-là. Donc là, j'ai un exemple par rapport à Darwin, qui est un temple phylogénétique sur lequel je travaille. Donc je suis repartie de cet arbre phylogénétique qui raconte les parentés entre espèces, qui est un arbre phylogénétique circulaire où on voit au centre l'émergence du vivant et sur les bords, de manière réticulée, comme ça, toutes les espèces. Et en fait, enfin, je trouve ce dessin absolument magnifique et je me demande pourquoi il n'est pas plus connu. En fait, c'est vraiment une espèce d'hymne du vivant quelque part. Et je l'ai mis en volume simplement sur une demi-sphère et tout d'un coup, ça fait un dôme, ça fait un espèce de temple dans lequel on va pouvoir circuler et on va pouvoir en fait aller visiter différentes espèces. Et on va vraiment habiter ce concept biologique. Mais en même temps, ce qui est hyper intéressant, c'est que, bon, là, c'est une mise en forme qui permet donc de mieux l'incarner. Mais c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est apparu, c'est que toutes ces espèces qui sont représentées par ces piliers, finalement, quand une espèce disparaît, on voit que l'édifice, en fait, il est soutenu par ses piliers et qu'il est fragilisé. Donc, ça a cristallisé, en fait, un autre concept qui est la fragilité, en fait, du vivant et de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et ça, je trouve que c'est étonnant que ce soit par le dessin, qui n'est pas du tout ce que racontait l'arbre phylogénétique à la base, que ça se met à... ces choses-là se mettent à converger, à se rencontrer, en fait.
C'est une expérience, Annelise Renon, qui me fait penser à une autre, qui est aussi une expérience d'imagination qui passe par les images. C'est ce très beau livre que Frédéric Aitouati a fait avec deux architectes, Alexandra Arène et Alexandra Grégoire, Terraforma, qui nous invite à faire des expériences mentales avec la reproduction de la Terre pour la penser autrement que dans les formes habituelles.
Oui, oui, tout à fait. Ce magnifique livre, d'ailleurs. En fait, ce qui est aussi extrêmement intéressant et c'est quelque chose dont on a pu déjà discuter avec Marie-Sara à propos justement de ce temple phylogénétique qu'elle est en train de créer, c'est la dimension animiste qu'il y a dans certaines formes de représentation et la manière dont on déjoue certains codes et en même temps en souhaitant représenter de manière la plus exacte possible certains territoires ou certains phénomènes ou certains modes d'évolution, on injecte en quelque sorte à l'intérieur des formes de représentation une dimension mythique et une part énorme de l'imaginaire dans l'acte même de la formalisation de la pensée du monde que l'on souhaite représenter.
Vous vous inscrivez à la fois dans une démarche rationaliste, Marie-Sara Denis, et en même temps qui ne néglige pas cette dimension mythique.
Bah, complètement. En fait, bah alors moi déjà, je me dis que je travaille pas du tout en essayant de traduire des concepts, en essayant de les vulgariser, mais plutôt en essayant de trouver les zones de friction. Donc pour moi, le design, c'est plutôt un outil pour mettre en dialogue la science avec d'autres approches, d'autres visions du monde, qui peuvent paraître antinomiques et qui ne le sont pas du tout en réalité. Et typiquement, cette notion de crise du vivant, on voit que les sociétés magiques ou les traditions animistes ont produit énormément de réflexions, un répertoire hyper riche autour de notre mode d'existence et de la relation qu'on a avec les autres êtres vivants. Donc c'est impossible de pas passer à côté. Et je m'amuse beaucoup de ces frictions parce qu'en fait elles ont l'air d'être des domaines complètement séparés, mais en fait au niveau de l'efficacité, c'est là qu'elles se retrouvent en fait et qu'elles s'incarnent quoi.
Anne-Lise Renaud.
Oui, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est le paradoxe et en même temps la dichotomie qu'il y a entre l'efficacité d'une part et une certaine forme de négociation permanente de l'autre. On parlait de Bertin tout à l'heure.
Vous parlez de diplomatie. Hein.
Oui, voilà, on parle de diplomatie. Et en fait, juste pour revenir rapidement sur cette question d'efficacité et cette ambivalence qu'il y a dans l'efficacité, on mentionnait tout à l'heure Jacques Bertin. Typiquement, Bertin a cherché toute sa vie une légitimation scientifique par la mise au point d'un système. Système qui pourrait être applicable et un transcripteur de toutes les formes de pensée qui puissent exister à l'aide d'un système de variables visuelles unilatérales, en fait. Alors même que, pour arriver à mettre au point ce système, il n'a eu de cesse que d'utiliser toute la sensibilité de dessinateur, de peintre et de cartographe qu'il avait. Et cette ligne de crête entre la recherche d'une efficacité et d'une scientificité et l'extrême sensorialité et sensibilité qui est nécessaire à mettre au point ces systèmes, c'est une zone de négociation. Enfin, Peter Galison, avec qui d'ailleurs j'ai eu une discussion qui est en postface du...
Oui, qui clôt le livre, c'est un
entretien qui clôt le livre. Dans un de ses livres qui a été traduit en français par Ainsi s'achèvent les expériences, a mis au point un concept qui s'appelle les trading zones, où lui il parle des paillasses en laboratoire, qui sont pour lui des zones de négociation internes dans la conception des expériences. Et moi c'est vrai que ce qui m'intéresse et dans cette négociation dont parle Marie-Sarah m'intéresse, c'est comment transposer ces zones de négociation et donc cette diplomatie à l'intérieur même des dialogues entre design et science, au niveau aussi bien des concepts, des matériaux et des gisements potentiels qui peuvent recréer, quoi.
Marie-Sarah Adonis, on voit ces zones de négociation, ça peut être aussi, et d'ailleurs Anne-Lise Renaud en parle, les ateliers des artistes. Elle s'appuie sur le travail de Svetlana Alpers pour dire à quel point finalement un atelier d'artiste, c'est pas très différent d'une paillasse de biologiste.
Ah oui, et puis alors moi je dirais vraiment pas le contraire, parce que moi dans mon atelier en fait ça ressemble un peu à un espèce de petit laboratoire, et dans lequel en fait je mélange tout un tas d'expériences, de choses qui m'ont inspirée. Il y a beaucoup d'éponges. Alors là, juste pour revenir à l'histoire des représentations, parfois il y a même pas besoin de créer des représentations, il y a simplement besoin de les déplacer et de les montrer
et de les prendre, de les saisir.
Oui, voilà. Donc typiquement sur les éponges, moi c'est quelque chose qui, il y en a plein dans tout mon atelier en fait, d'ailleurs des éponges qui vont des éponges naturelles aux éponges synthétiques, parce que les éponges depuis mes études de biologie où j'ai découvert que c'était l'ancêtre des animaux, ça me fascine complètement. Et je suis hyper heureuse de voir que le philosophe Baptiste Morisot en parle très très bien, et donc on est au moins deux à être complètement...
On est encore dans la diplomatie.
Voilà, on est complètement fascinés, je pense tous les deux, j'espère qu'on est plus nombreux par cet ancêtre, et on a envie de faire une place plus grande en fait à cette espèce de parentalité qui est très étonnante et qui est superbe. Et donc là, dans l'exposition que je prépare là au Palais de Tokyo dans deux mois, je vais proposer un tête-à-tête avec cet ancêtre. Et si je collectionne aussi des éponges qui sont synthétiques, donc qui ne sont pas des êtres vivants, c'est parce que je m'amuse aussi de ce faux continuum et de ces parentalités impossibles. Ça, c'est un peu un autre sujet.
Mais c'est aussi parce qu'il faut que les non-vivants... trouvent leur place dans cette cosmogonie.
Bah là, c'est peut-être parce que du coup, comme je suis designer, il y a aussi le fait que ça m'intéresse, ce recouvrement entre des objets usuels et des objets symboliques, ou en tout cas, cette espèce de recouvrement en même temps de distance entre les deux.
Annelise Renon, on arrive bientôt au terme de l'émission. On a beaucoup parlé de la manière dont le design, au fond, accueillait la démarche scientifique, s'y intéressait. Et on a parlé de la manière dont les sciences sociales aussi dialoguaient avec ces représentations graphiques, par exemple, avec d'autres formes de design. Mais vous commencez votre livre par un constat qui est que, finalement, même la science la plus dure, je pense au journal Nature, accorde une place au design. Il y a depuis maintenant assez longtemps un éditorial, enfin une colonne consacrée à ces questions.
Oui. C'est l'historien de l'art Martin Kemp qui a tenu cette colonne pendant plus de 20 ans. Avec justement, effectivement, une colonne qui était dédiée aux images, on va dire, aux images artistiques qui parlaient de la science ou aux images scientifiques qui parlaient de sublime d'une sublimation soit du vivant, soit d'un concept, soit d'un fait historique, scientifique. Il a développé énormément d'exemples issus de l'histoire de l'art. Martin Kemp étant un grand spécialiste de Léonard de Vinci, évidemment, il y a énormément de choses sur Léonard qui ont été faites, mais il y a aussi tous les premiers dessins de la structure ADN. Il y a aussi, énormément d'exemples ont été faits. Les premières images de microscopie électronique aussi ont été étudiées quasiment en termes sémiologiques. Et récemment, il a d'ailleurs qualifié un certain nombre d'images scientifiques comme des intuitions structurelles. Et en essayant de coupler certaines démarches artistiques contemporaines et l'émergence de certaines visualisations et une envie de voir au-delà de la réalité dans les sciences, ces intuitions, c'est peut-être un petit peu ce qui pourrait être une démarche aussi de conception pluriel qu'on pourrait trouver dans les frictions design et sciences qu'on a à l'heure actuelle.
Annelise Renon, Design et sciences, c'est le titre de votre livre qui paraît aux presses universitaires de Vincennes. On trouvera la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture. Et puis, on trouvera déjà un lien vers la future exposition que vous préparez d'ores et déjà, Marie-Sara Adonis, qui au Palais de Tokyo, qui ouvrira
Le 10 décembre.
Le 10 décembre, et dans lequel on pourra découvrir votre travail, notamment avec ces éponges. Donc tout ça sur la page de l'émission. Vous pouvez également réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Marie Dalquier. À la technique Cédric Châtelus. À la réalisation Marie Placé. C'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.